Le grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous. Heureuse de vous retrouver ce dimanche pour vous présenter le tout premier numéro de votre magazine Le Grand Témoin de l'année 2016 dans ce studio avec moi pour cette première émission de l'année. Corneille Moulumba Moujangui, il est membre cofondateur de l'UDPS et c'est lui que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui. Monsieur Corneille Moulumba, bienvenue dans le studio de Radio Capi et meilleurs voeux.
Meilleurs voeux, Kelly.
Alors avec vous dans notre entretien, nous allons vous faire découvrir, je l'ai dit aux auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment par ton RDC sur la fréquence FM et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radioocapi.net. On va parler de votre parcours politique surtout, c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité dans cette émission. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Kananga un certain 2 juin 1953.
C'est bien cela.
Et c'est là où vous grandissez à Kananga?
Jusqu'en 60, suite au trouble qu'il y a eu entre les Lulua et les Baluba, nous avons dû quitter Kananga, Lulua Bourg à l'époque, pour nous rendre au Kasaï oriental actuel, donc à Mbujimayi.
Ça veut dire que vous avez fait l'école primaire à Mbujimayi?
J'ai fait l'école primaire à Mbujimayi, bien sûr, et j'ai repris la dernière année de l'école primaire à l'extérieur.
Vous êtes marié, père de 6 enfants.
Exact.
3 filles et 3 garçons.
Bien équilibré.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Écoutez, d'abord les troubles. Parce que ça, je ne comprenais rien. Parce que nous avions toujours été à Kananga, à Luabourg à l'époque, avec la famille. Et nous étions chez nous. Et c'est en 60 que je découvre que je ne suis pas chez moi. Et que je dois quitter. Je ne comprenais rien. Et dans beaucoup de violences, très jeune, j'ai vu des corps meurtris, j'ai vu des mains coupées, j'ai vu des tués. Et ça m'a beaucoup troublé parce que je ne comprenais absolument rien.
C'est normal, vous étiez tout petit.
Tout petit, oui, mais quand on découvre que bon, vous n'êtes pas chez vous, là où vous avez tout pensé que vous êtes chez vous, c'est terrible. Donc, nous sommes allés et pour la première fois, j'ai vu les troupes de l'ONU apporter à manger. Donc, ce que nous voyons se passe ailleurs, nous l'avons vécu. J'étais au lac Moukamba, qui est situé entre le Kasaï oriental et le Kasaï occidental actuel. Et là, nous sommes venus très nombreux en très peu de temps, alors que c'était un petit village pratiquement. Et il n'y avait pas à manger pour tout le monde. Et l'ONU a porté à manger, des choses comme ça. Et je vous assure que quand je vois avec du recul, et je vois les images de ce qui se passe ailleurs, pour moi c'est du vécu, j'ai vécu ça personnellement. Et donc je suis marqué par cela.
Alors vous arrivez à Mbujimayi, l'adaptation était facile, l'intégration?
Non, parce que le problème c'est que vous arrivez en quelques mois, quelques semaines, quelques mois, vous venez de partout et vous débarquez. Mbujimayi c'était juste, vous aviez la petite ville, le centre Miba, et tout le reste qui constitue les communes actuelles, c'était des villages. Et que donc, vous débarquez, il n'y a rien, vous devez vivre, survivre, et il n'y a rien pour faire face à cet accueil-là. Et c'était très dur, très très dur. J'ai eu beaucoup de chance, parce que mon père, qui à Kananga était menuisier, a pu, grâce à son travail, aussi à des bonnes relations qu'il avait avec ses patrons de l'époque, que j'ai retrouvé quelques années plus tard en Belgique, a pu racheter un camion, et ce camion a servi notamment au transport des réfugiés et a pu, en circulant, nous approvisionner en nourriture. Donc, personnellement, je n'ai pas connu cette fin-là comme telle, parce que nous parvenions à survivre, mais il n'y avait absolument rien pour beaucoup de gens. Les enfants avec le coiffeur corps, les pieds gonflés, tout ça, c'est du réel pour moi. Parce qu'il n'y avait aucune chose à faire.
Vous avez vécu.
Personnellement, oui.
Alors, vous restez à Mbujimayi pendant 6 ans.
Lorsque nous quittons Kananga, nous restons à Moukamba, au lac Moukamba, et puis nous installons à Kabeyakamanga. C'est une quarantaine de kilomètres. Et quelques temps après, nous montons sur Mbujimayi. Et c'est là où moi, personnellement, je suis resté jusqu'en 66.
Pour vous retrouver en Belgique après?
Oui, en septembre 66, j'ai quitté Kabeyakamanga pour Mbujimayi, Kinshasa et la Belgique sur l'espace de 15 jours.
Vous aviez 13 ans?
13 ans.
pour des raisons d'études que vous êtes allé en Belgique.
Tout à fait, pour des raisons d'études. Et c'est quelque chose, c'était une grande surprise pour moi parce que mon père ne m'avait pas informé qu'il négociait quelque chose. Un jour, pendant que je suis en vacances à Kabeya-Kamwanga, et on vient, on m'appelle, je dois monter à Mbujima, et puis de Mbujima, deux jours après, Kinshasa, et puis Kinshasa, tout était pratiquement arrangé, et je me suis retrouvé dans l'avion pour la Belgique.
Alors vous arrivez en Belgique à l'âge de 13 ans avec deux mots de français dans la bouche. C'était quoi vos premières impressions? Vous arrivez chez des gens que vous ne connaissez pas. Vous n'aviez pas eu envie de rentrer chez vous
Non, parce qu'il y a eu des surprises en surprise. La première chose, comme je venais d'arriver la nuit, alors on me sert à manger. Et c'est la salade et d'autres histoires. Et pour moi qui venais de Kabeya-Kamwanga, les herbes, c'est pour les chèvres, pas pour les êtres humains. Donc, ça ne goûtait pas du tout avec... je ne mangeais que du pain. Première chose, donc, première, affrontement culturel. Je ne pouvais rien manger de tout ce qu'il y avait là-bas parce que ça ne me plaisait pas du tout. Je n'étais pas, ce n'était pas dans mes habitudes alimentaires. Donc, non, je n'ai pas pensé à rentrer puisque mon père m'a dit avant de quitter, voilà fils, moi je n'ai pas étudié. Comme mes activités économique me rapporte un peu, je t'envoie là-bas, tu vas pour étudier. Je ne peux pas te donner des conseils. Donc c'est toi qui dois savoir ce que tu dois étudier. L'essentiel est que tu apprennes beaucoup, le maximum possible, et que tu reviennes nous aider. Voilà ces mots. Et je suis donc parti avec l'idée d'aller apprendre et de revenir les aider. Donc dans ma tête, il n'était pas question de rentrer. Donc quelle que soit la difficulté de la situation, est-ce que j'allais affronter, j'allais à un combat.
Vous reprenez la sixième année primaire en Belgique, vous faites des humanités gréco-latines.
C'est ça.
C'était ça votre choix?
Non, c'est dans cette école-là, cet internat-là, parce que c'était un internat, on faisait les humanités gréco-latines, il n'y avait pas autre chose. Donc j'ai fait cela, je ne me suis pas posé autre mesure de questions, c'est ce que j'ai fait, j'ai étudié ça. Et bon voilà, il fallait l'étudier, je l'ai fait.
Vous n'étiez pas complexé? Est-ce qu'il y avait des Noirs dans cette école, dans cet internat?
Non, il y avait quelques-uns, mais c'était un problème parce que quand vous arrivez quelque part et que vous allez sur une autre planète et la nourriture et la langue et la géographie et l'histoire, tout vous est étranger. D'ailleurs, la première chose, c'est le premier jour quand je suis arrivé à l'internat, j'arrive là, le soir, on m'amène dans le dortoir, il contenait à peu près une quarantaine d'élèves. C'était la nuit, donc je n'ai vu personne. Avec une lampe torche, on m'a montré juste mon lit. Je suis allé dormir là-bas. Le matin, j'entends une cloche. Lorsque j'ouvre les yeux, je vois tout plein de petits blancs autour de moi. Alors je crois que j'ai fait un mauvais rêve. Je me retourne dans le lit parce que je n'imagine pas que je suis à tel endroit. Et par la suite, le surveillant revient, il me voit toujours pas levé, il secoue encore. Je me lève. Mais je regarde, tous les petits blancs se ressemblent tous. Ils ont presque tous la même taille et tous se ressemblent. Et on ne s'en rend pas compte, hein, mais quand vous quittez de là où vous trouvez de telles situations, c'est surprenant. Enfin bref, je me suis habitué, bon, bien sûr, après quelques bagarres au début, parce que pour moi, quand je vois des gens en train de parler, de rigoler et de me regarder, c'est qu'ils se moquent de moi.
Ils se moquent de moi.
Et le seul moyen que j'avais, c'est la bagarre. Et je me bagarrais. Dès le premier jour, j'ai commencé.
Ça ne vous a pas créé des problèmes à l'internat?
Dès le premier jour, on m'a amené chez le directeur, chez le préfet plus exactement, pour dire, mais c'est qui est-ce qu'on nous avait amené à l'internat là? Et après quelques jours, bon, on s'est devenus amis avec tout ce monde-là.
Bon, vous vous êtes adapté, c'était parti.
Sans problème.
Licence en administration des affaires, toujours en Belgique.
À Liège, plus précisément.
Humanité gréco-latine, licence administration des affaires.
Oui, c'est pas lié, mais... Déjà, moi j'avais cette ambition-là. Pourquoi? Parce que mon père, lui, était commerçant. Quelque part, j'avais en moi cette fibre-là. Mais au bout de la quatrième année des humanités, j'ai voulu changer pour partir dans une école où on pouvait avoir la formation commerciale, économique et tout ça. Et j'ai informé l'internat et je suis parti. Mais les prêtres qui étaient habitués à voir des aérois de l'époque... qui contribuait beaucoup, parce que nous étions là toute l'année, alors que les Européens venaient, partaient, entrer chez eux, n'avaient pas apprécié ça. Ils ont fait croire à mon père que j'étais disparu, alors que je les avais dit au revoir, ils savaient où j'étais. Et mon père m'a écrit pour dire que, par tous les moyens, rentrer à l'internat, suivez mes conseils et tout ça. J'ai dû rentrer à l'internat, et j'ai terminé mes humanités là. J'ai terminé mes humanités là-bas, et quand j'ai terminé seulement, je suis parti à Liège.
Après avoir obtenu votre licence en administration des affaires, vous avez travaillé en Belgique, vous avez fait des petits jobs.
Mon objectif, c'est comme on avait convenu avec mon père, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était de rentrer. Et j'étais déjà un activiste politique faut que je m'exprime ainsi, dans la mesure où, en tant qu'étudiant, déjà, nous organisons beaucoup d'activités. Des personnalités actuelles comme l'actuel ministre provincial Godard Motemona ou bien comme le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshisambo, sont des personnes avec qui nous sommes connus avec eux dans le cadre des activités politiques là-bas à l'extérieur. Et lorsque les 13 parlementaires ont créé leur lettre ouverte, nous étions sensibilisés déjà et je me suis occupé de ça. Vraiment spontanément.
Là, continuer. Vous parlez déjà de vos activités politiques.
Non, juste pour dire que j'ai dû rester, je voulais rentrer, mais ils m'ont demandé de contribuer, je suis resté sur place et j'ai continué. Bien sûr, il fallait faire des petits jobs pour continuer à survivre.
Voilà, c'est ça que je disais, vous avez fait des petits jobs à gauche
entendu,
à droite
bien entendu,
pour
bien
survivre.
Comme étudiant déjà, parce que
oui,
pour payer les études, j'ai dû travailler. J'ai travaillé en même temps que j'étudiais pour financer mes études.
Pendant que vous étiez étudiant, vous venez de le dire vous-même, hein, vous vous êtes lancé dans la politique.
J'étais actif politiquement. Je veux dire, déjà comme syndicaliste étudiant, j'étais actif. Et par la suite, par rapport à la situation dans notre pays, à l'époque du Parti unique, j'avais créé des associations, une association en dehors de la GMPR de l'époque. Et aussi, lorsqu'il y avait des actions ici, comme les étudiants qui manifestaient ou qu'on fermait les universités, avec d'autres étudiants en Belgique, nous nous mettions ensemble pour soutenir les étudiants. Donc, j'étais actif politiquement déjà.
Votre soutien était de quel genre? Vous les souteniez comment?
D'abord, puisqu'ici, c'était la dictature, donc il n'y avait pas de possibilité de communiquer, notre action consistait à faire entendre la voix de ces contestations, de ces manifestations, pour que ce soit su et que les arrestations et tout ce que vous voulez ne restent pas sous silence.
Faire entendre la voix où? Auprès de qui?
Au niveau de la communauté. Parce que le fait que nous organisions des manifestations publiques, des manifestations de rue, et je suis dans les médias et tout ça, tout le monde entier, la communauté internationale, je veux dire le monde entier, était informé de ce qui s'est passé ici. Et pour nous, puisque l'ennemi essentiel, c'est l'ignorance, c'est le silence. Pour qu'il n'y ait pas de silence autour de ce qui s'est passé, nous amplifions cette voie-là à l'extérieur.
Vous avez été fondateur du Cercle des étudiants zaïrois, et là c'était en opposition à la GMPR.
Oui, nous étions ici dans le Parti État. Le Parti État, donc le MPR, Parti État, qui avait sa jeunesse, la GMPR, jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. Et pour moi, l'endoctrinement du système, moi qui avais évolué dans un monde de démocratie, je ne supportais pas cela. Alors j'avais créé à Liège, où j'étais, le Cercle des étudiants zaïrois de Liège. Et dans ce cadre-là, nous organisions des activités, des conférences, des débats, des projections de films et autres, pour montrer aux jeunes Congolais, aux jeunes zaïrois de l'époque, que mais non, ce qu'on nous dit, on vous dit, on apprend à Kinshasa, ce n'est pas seulement ça. Voilà ce qui s'est passé ailleurs, en Amérique latine, en Asie, à gauche, à droite, pour leur ouvrir l'esprit, les amener à s'engager politiquement pour aboutir à des changements. C'est pour ça que notre lutte a commencé à l'époque, même si ça ne s'appelait pas UDPS, mais c'était déjà... Là, nous sommes dans les années 76, hein, 76-77, donc ça ne date pas d'aujourd'hui.
Et c'est la dictature ou la gestion du pays par Mobutu qui vous a poussé à vous lancer dans la politique?
C'est la dictature, c'est l'oppression, c'est les injustices, les violations inutiles des droits qui m'avaient poussé à réagir. Et puis, même la façon de gouverner le pays. Je me suis dit, si nous amenons les jeunes à réfléchir autrement, parce que ceux qui étaient ici évoluaient dans la moule
de la
GMPR. Donc ils étaient déjà endoctrinés, ils ne voyaient pas les choses autrement. Et nous pensions qu'on devait montrer qu'autre chose est possible. Et que ce qui se passe chez nous, c'est passé aussi ailleurs. Et comment les autres s'en sont sortis. Des films, des débats, inviter des grandes personnalités africaines et autres pour éveiller les consciences. Donc c'est la démarche politique, je n'ai pas la naissance, mais presque le cheminement qui a abouti à ce que je sois à l'UDP aujourd'hui.
Propagandiste de la lettre ouverte des 13 parlementaires au président Mobutu, là nous sommes dans les années 80, vous étiez toujours en Belgique.
Je suis toujours en Belgique.
Nous sommes actifs
à ce moment-là dans le mouvement de solidarité avec les étudiants de Zaïre, la monsieur. Et c'est à ce moment-là que la fille d'un de 13 parlementaires auteurs de la lettre nous communique une copie de la lettre ouverte. Nous recevons ça. Elle, ce qu'on a avec elle, parce que nous avions manifesté ensemble. Quand nous lisons ça, nous décidons de tout faire pour ne pas laisser étouffer cette action-là. Et puisque les 13 parlementaires eux-mêmes s'organisaient chaque fois lorsqu'il y avait des signatures pour faire sortir un exemplaire. Et la dernière copie, c'est celle qui avait 13 signatures. et nous avons pu ça, nous avons fait une grande propagande pour qu'on sache que voilà ce qui se passe au Zaïre. Et le fait que c'était des parlementaires, donc des notables du système qui avaient écrit une telle lettre, une telle critique, ça a eu une grande ampleur. Si nous n'avions pas fait ça, il n'y aurait jamais eu l'écho et il n'y aurait jamais eu de l'IDPS. Donc cette démarche a été déterminante parce qu'elle a permis à ce que le président Mobutu lui-même ne comprenne pas comment est-ce qu'un tel document a pu faire le tour du monde et repris par tous les médias en Occident. Il a été stupé par ça. Et c'est le point de départ de tout ce qui a suivi.
Vous êtes membre cofondateur de l'UDPS. L'UDPS est né en 82. Vous étiez en ce moment-là en Belgique.
Oui.
Comment ça se fait que vous soyez parmi les membres cofondateurs de l'UDPS?
Bien simple. Puisque nous recevons la lettre ouverte, nous en faisons la propagande. Nous la diffusons partout. Les auteurs de la lettre ouverte sont arrêtés. Et lorsqu'ils sont libérés un an plus tard, grâce notamment à l'action que nous avions menée pour leur libération avec les organisations internationales de défense des droits de l'homme, ils décident de créer le parti. Ils écrivent une lettre au président Mobutu pour lui annoncer la création le 15 février donc de leur parti. Et cette lettre, par le même canal, nous parvient. Alors, nous nous mettons à la matérialisation de cette idée du parti. C'est comme ça que même le logo de l'UDPS actuel, c'est moi qui construis ça. Nous rédigeons les statuts, nous rédigeons le projet de société, nous rédigeons le programme même. Nous faisons tout ce travail-là. L'aide ne le fait à l'extérieur. Et nous avons continué à communiquer avec eux. Alors, quand ils ont été libérés, ils ont officiellement écrit même pour dire que non, monsieur Kone, nous vous considérons comme membre cofondateur de l'UDPS. Donc, ça, c'est aussitôt qu'ils avaient été libérés, ils ont fait ça. Donc, je veux dire que nous avons fait ce travail-là. Ce n'est pas un titre comme tel. Mais non, c'est une référence historique. Nous avons créé le parti. Je vous dis, le logo actuel de l'UDPS, c'est moi-même qui ai construit ça. J'ai encore les maquettes qui ai construit ça. Nous avons travaillé et les statuts, et le programme, et le projet de société. Avec le professeur Dikonda, qui est décédé aujourd'hui, qui était le tout premier représentant. Et moi-même, j'étais son adjoint.
Vous étiez son adjoint à l'extérieur.
Et puis,
de 83 à 89.
Et puis après, à partir de 86, c'est moi qui étais le représentant plénipotentiaire, parce qu'il n'était plus là.
Alors, en 87, il y a un petit désaccord politique entre vous et les dirigeants de l'UDPS après la signature des accords de Badolit avec le président Mobutu.
Oui, c'est ça. En cette année-là, les dirigeants de l'UDPS signent un accord avec le président Mobutu. Cet accord fait de l'UDPS une tendance du MPR. Et l'article 33 de la Constitution de l'époque disait que le MPR était un parti État. Et que donc, l'UDPS entrait, se considérait comme parti, donc comme une tendance du MPR. Et nous avons dit ceci. Non. Lorsque nous avons créé l'UDPS, le MPR existait. Et c'est parce que nous étions en rupture avec le MPR que les gens nous ont suivis. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que l'UDPS intègre le MPR, devienne tendance du MPR? Nous sommes opposés à cela. Et là, nous étions en grand désaccord avec les dirigeants de l'UDPS du terrain.
Le désaccord commence en 87, oui. Mais en 90, vous êtes exclu, oui, du parti parce que vous avez exigé la tenue du congrès,
mais oui,
du parti, mais aussi la formation d'un gouvernement d'union nationale avant la conférence nationale souveraine.
C'est ça, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire qu'en 90, aussitôt après la création du parti, il y a une rencontre entre les dirigeants de l'UDPS et le président Mobutu. Ils conviennent ensemble de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et je prends position pour dire que ça n'a pas de sens. L'UDPS vient d'être reconnu. Il est important qu'elle, puisque nous pouvons agir maintenant au grand jour, que l'UDPS d'abord se retrouve avec les différents cadres, ceux qui étaient à gauche à droite dans tout le pays et dans la clandestinité, pour que nous puissions définir ensemble notre projet de société. Ensemble, cette fois, ouvertement, puisque nous sommes reconnus officiellement, que nous puissions dégager les principales orientations. Donc, aller dans ces conditions dans le gouvernement, ça n'a pas de sens. Ça, c'est une première chose. La deuxième, ceux qui ont été sous l'origine de Mobutu, qui ont travaillé, n'étaient pas nécessairement tous bêtes. Peut-être que le système était mauvais. Alors, si le système est mauvais, à quoi nous sert-il d'entrer dans un gouvernement sans remettre en cause, faire l'autocritique, faire la critique de ce système? Ensemble maintenant en démocratie, puisque les partis sont reconnus. Et pour moi, ça passait par la conférence nationale. Les dirigeants de l'UDPS de l'époque m'ont dit, non, c'est nous qui décidons, et que si vous continuez, nous allons vous exclure. Je leur ai dit, monsieur, excluez-moi, parce que je ne vois pas comment tous les sacrifices consentis, tout le travail fait, va être anéanti pour entrer dans un système qui n'aura pas été remis en cause, comme si nous nous battions.
C'était qui les dirigeants de l'époque?
Oh, il y avait l'actuel Tshisekedi, il y avait Frédéric Bassamaliba, il y avait Faustin Birindoa, professeur Yaou, d'autres là-bas. Oui, donc Vincent Boakim et d'autres. Et que donc, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est comme si nous étions battus uniquement pour entrer dans ce gouvernement et ça, c'est incompréhensible pour moi.
En 91, vous revenez au pays pour la première fois, 25 ans après.
Tout à fait.
Vous revenez pour quelle raison? Pour vous battre sur place.
À la fin des années, donc vers les années 89, le président Mobutu avait amorcé le travail de démocratisation. Et certains de ses collaborateurs, je pense notamment au conseiller spécial Kemali Lokiek Kinshasa, et d'autres, ont pris des contacts avec l'opposition à l'extérieur pour leur dire les choses, nous battons pour que les choses changent. Nous voulons que vous aussi, l'opposition, vous puissiez vous mettre dans la même action pour que nous puissions ensemble changer. Et nous lui avions répondu que le problème n'est pas de notre côté, que le président Mobutu démocratise et nous allons travailler, il n'y a pas de problème, qu'il démocratise. Et le 24 avril 90, je suis encore en Belgique, il y a un journaliste belge qui m'appelle, qui me dit, monsieur Cornet, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis chez moi à la maison. Vous êtes debout, vous êtes assis. Moi, je me suis debout. Il dit, asseyez-vous parce que si je vais vous dire, vous allez tomber. Alors, oui, allez-y, maintenant je suis assis. Il me dit, écoutez, le président Mobutu a parlé. Il y a presque une partie de son discours. Et un, il a mis fin au parti État, il a donné la liberté d'habillement, de ses syndicats, de tout ce que vous voulez. Et il termine par nous avons gagné. Parce que ces milieux, nous avons vu nous battre tous les jours pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays. À partir de ce moment-là, le processus est engagé. Et le travail extérieur n'a plus de
mais
sens.
Mais vous étiez exclu du parti.
Non, j'étais exclu au mois d'août. Et ce que nous parlons, c'est au mois d'avril. C'est juste après que j'ai fait
tout
à fait. Donc, voilà la démarche à laquelle nous étions. Donc, dans ma démarche, nous allons avoir un congrès du parti. Nous allons nous réunir pour voir ce que nous allons faire. Pendant que les autres sur place voulaient simplement déjà se précipiter pour former le gouvernement. Et donc, c'est contre ça que nous étions opposés. Bref, je veux dire, une fois que cela est fait, nous sommes dans le processus. Et moi, mon travail à l'extérieur n'avait plus de sens. De toute façon, non seulement j'étais exclu déjà au mois d'août, mais je restais à l'extérieur pour faire quoi? Je reviens sur le terrain pour continuer le travail sur le terrain.
Continuer le travail alors que vous étiez exclu?
Mais oui, mais quand je suis entré à l'UDPS, je n'ai pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. J'ai apporté ma contribution. Je suis exclu. Je peux ne pas être secrétaire national ou ceci ou président ou ceci ou cela. Mais ça ne m'empêche pas d'être que je suis un membre cofondateur du parti et que j'ai la liberté de m'exprimer comme je m'exprime aujourd'hui.
Oui, mais vous allez vous exprimer en tant que qui, puisque vous étiez exclu
du parti. Mais parce que je ne leur reconnaissais pas le pouvoir de m'exclure. Ils m'excluaient en tant que
qui. Il y avait des organes quand même, non?
Non. La décision, ils l'ont prise tout seul. C'est pour ça que j'ai dit. Ils ont pris la décision tout seul. Je ne le reconnaissais pas, ça. Nous ne battons pas la démocratie. Donc, si quelqu'un doit être sanctionné ou exclu, oui, ça doit passer par des organes. Mais quels organes, puisque le parti vient d'être reconnu? On ne s'est pas encore réunis, on n'a encore rien mis sur pied. Donc, je ne reconnaissais pas ce droit-là. Et j'ai continué à m'exprimer, à défendre les fondements de notre combat, la vision de notre combat, jusque-là. J'ai continué, je n'ai pas arrêté.
Vous avez continué, mais ça n'engageait pas les partis, ça vous engageait.
Ça m'engageait, moi. Mais il est un fait que la vérité reste la vérité. Vous pouvez être dans le parti, être président, être vice-président, être ce que vous voulez. Mais la vérité reste la vérité. Si vous dites la vérité, ok. Vous ne dites pas la vérité, on vous confond.
Alors, on va souffler un peu, monsieur Corneille Moulumba. C'est quoi votre plat préféré?
Ah, j'aime beaucoup le foufou, naturellement, ça va de soi. Pondou, poisson fumé.
Comment vous...
Essayez d'un bic à côté, c'est parfait.
Comment vous passez vos moments de détente?
J'aime bien écouter la musique, principalement. Je lis beaucoup. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons Internet et qu'on peut lire sans fin. Je me cultive, j'aime beaucoup lire l'histoire, j'aime beaucoup lire la géographie. Ça permet de consolider mon bagage politique.
Alors, c'est quel genre de musique que vous aimez écouter?
La musique congolaise en général, j'aime le zouk, j'aime... la rumba d'abord, hein, congolais en général. Les Congolais font de la bonne musique et je suis très de ce côté-là. Je suis... Du côté extérieur, je suis ancien, donc le rhythm and blues dans le temps, le James Brown, le Otis Redding, ça me passionne toujours, ça c'est ma jeunesse.
Et ça vous ferait plaisir d'écouter
Un James Brown, un Otis Redding, j'aime bien tout ça.
Voilà, donc on va demander à Patrick de nous balancer quelque chose, James Brown par exemple.
Ça serait très bien, ça me ferait plaisir.
Pour votre plaisir. Merci et pour beaucoup. Le plaisir de tous les auditeurs de Radio Okapi qui vous suivent en ce moment. Merci on se retrouve beaucoup. Juste après pour la suite de notre entretien.
Parfait.
I feel good. I knew. De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Témoin, vous faites découvrir aujourd'hui Corneille Moulumba Mujangi, il est membre cofondateur de l'UDPS. Corneille Moulumba, vous revenez au pays en 91, vous continuez à faire des déclarations, pas au nom de l'UDPS, hein, mais en votre nom propre. Hein.
En tant que membre cofondateur de l'UDPS.
Ce qui n'engage pas le parti, quand
même. Bien sûr, il y a les structures officielles. Mais en tant que membre cofondateur, vous avez aussi des responsabilités, parce que par votre attitude et votre engagement, vous avez entraîné des milliers de personnes à gauche et à droite dans ce pays, dans ce combat. Donc vous avez le devoir, l'obligation à leur égard de leur dire ce que vous pensez être bien ou mal pour la poursuite du combat.
En 93, vous êtes vice-ministre du plan.
Tout à fait.
Dans quel gouvernement?
Gouvernement Birindois. En fait, c'est après une série de divergences au sein de la direction du parti. Nous sommes en 1993 et l'UDPS, reconnu officiellement depuis 2010, n'a toujours pas organisé ni de congrès ni quoi que ce soit. Donc nous sommes en l'air. Et les divergences, comme ce qu'on a connu par la suite aussi, sont là. Et un groupe de dirigeants, parmi lesquels Faustin Birindwa, parmi lesquels Porté Lumbu Maloba et d'autres, ont décidé de former ce gouvernement. Puisqu'il avait déjà eu les négociations du palais de marbre et tout ça, 1 et 2, où effectivement il avait été convenu de la mise en place du gouvernement. En fait, moi j'étais à l'extérieur. On m'a rappelé de l'extérieur par Faustin Birindwa pour venir à ce gouvernement. Donc,
alors vous qui exigez qu'il y ait un congrès,
oui,
avant toute création d'un gouvernement d'union nationale,
c'est ça.
Comment vous acceptez finalement après de venir dans ce gouvernement alors qu'il n'y a pas eu de congrès de l'UDPS?
Mais il y a eu conférence nationale avant cela.
Il y a eu qui s'est terminé en queue de poisson.
Mais il y a eu conférence nationale. Donc il y a déjà un pas de franchi. Ça c'est un. Deux, je vous informe, je vous rappelle que le premier congrès de l'UDPS, entre guillemets, a été tenu en 2010. Donc de 90 à 2010, il n'y a rien eu. Ça veut dire que il n'y avait pas de volonté. Vous comprenez? Alors oui, je suis allé dans ce gouvernement, on m'a dit... On va faire un gouvernement qui devait avoir une durée de 6 mois, qui avait pour deux points l'ordre du jour. Il y avait à ce moment la crise monétaire, vous vous souvenez, où l'époque des bines de chèques et tout ça, où il fallait trouver des mécanismes pour mettre fin à cela. Et d'autre part, il y avait un dédoublement des institutions et mettre fin à ce dédoublement des institutions. C'est ce que nous avons fait. Ce gouvernement a organisé les concertations du Palais du Peuple, auxquelles j'ai participé d'ailleurs aussi. Et c'est ces concertations qui ont donné lieu au HRPT qui était en place jusqu'au moment où Laurent Désiré Kabila est entré.
Vous qui dénonciez la gestion du pays par Mobutu, comment vous acceptez finalement de travailler avec lui? Est-ce que la situation s'était améliorée?
Écoutez, c'est pas compliqué à comprendre. Il y a eu la conférence nationale au cours de laquelle tous les dossiers ont été mis sur la table. Cette conférence nationale avait élu comme premier ministre un certain Étienne Tshisekedi.
On le sait.
Donc, je veux dire qu'à partir de ce moment-là, cette mise en question a eu lieu et c'était suivi en direct par la radio et la télévision par tous les Congolais, n'est-ce pas, par tous les de l'époque. Ça, c'est une chose. Donc, il y a un pas qui est franchi. À partir de là, ce n'est plus un problème d'individu, nous sommes dans la lutte politique. C'est-à-dire qu'il fallait simplement que les forces politiques, les unes et les autres, puissent peser pour que nous puissions avancer, faire avancer le pays. Donc,
mais le pays n'avançait pas, au contraire, le pays reculait.
Non, puisque l'objectif, nous avons eu le Parlement de transition. Ce Parlement de transition, ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur pied une commission électorale indépendante. Il a mis adopter une constitution de la transition. Il a adopté la loi électorale, la loi référendaire. Donc, en fait, lorsque nous entrons, tout est prêt, en fait, pour faire des élections. Or, s'il y avait des élections libres et transparentes à ce moment-là, puisque c'était ça l'objectif, et que c'était fait par les gens et de l'opposition et de la majorité, bon, on avançait. C'était ça l'objectif. Et on était au point d'y arriver quand on a mis fin à tout cela.
Alors, lorsque vous acceptez de travailler dans le gouvernement rwandais, ça veut dire que vous vous étiez désolidarisé d'Étienne Tshisekedi.
C'est un individu.
Répondez à ma question.
Mais je vous réponds, c'est un individu.
Oui ou non?
Écoutez, l'UDPS avait une direction à ce moment-là, n'est-ce pas? Une partie de cette direction pense autrement, une autre pense autrement. Voilà, c'est tout. Donc, je ne pense pas nécessairement qu'aujourd'hui, nous sommes en 2015, l'UDPS n'a pas accédé au pouvoir. Donc, on ne peut pas dire que ceci avait tort ou ceci avait raison, parce que peut-être que sur le plan des stratégies, les uns ou les autres.
Ma question est claire, monsieur Corneille.
Vous me demandez de me désolidariser avec un individu, ça n'a pas de sens à mes yeux, parce que je mène un combat politique. Les idées, la vision, c'est ça qui est important.
Parce qu'on ne va pas se le cacher, on sait que quand on parle de l'UDPS, c'est ce qu'il dit qu'on voit.
Mais c'est une erreur quelque part, madame Kelly. À l'UDPS, il ne peut pas y avoir que des bénis oui-oui et des applaudisseurs. Ou des fanatiques, non. Il y a aussi des hommes qui raisonnent. Quand c'est bon, quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et il faut le dire. Et en tant que membre cofondateur, je pense que je dois le dire. Donc, si nous n'avançons pas dans la direction qui est de la bonne, je dis que c'est comme aujourd'hui, pour un dialogue qui se pose. Des membres du parti disent que nous sommes pour le dialogue, d'autres disent que nous ne sommes pas pour le dialogue. Et moi, je dis, pour trouver la solution, c'est là. Mais ce que vous demandez aux autres là, faites-le vous-même. Qu'il y ait une réunion, un conclave des cadres du parti pour réfléchir, nous faisons quoi? Dialogue ou pas dialogue? Que ce soit une décision du groupe, pas une décision des individus, quel qu'il soit.
Vous n'avez pas été écouté?
Non, apparemment.
Mais vous-même, vous êtes pour le dialogue?
Bien sûr, naturellement. Parce que je suis pour le dialogue, parce que c'est la philosophie même de l'UDPS. Être pour le dialogue, ce n'est pas aller à n'importe quelle condition. Un dialogue, ça se prépare. Un dialogue, c'est la seule voie pour l'UDPS de accéder au pouvoir. L'UDPS n'est pas accédé au pouvoir que par des élections libres, démocratiques et transparentes. Et lorsque ces conditions ne sont pas réunies, nous partons perdants. Et puisque nous ne pouvons pas utiliser les armes, nous devons trouver un compromis politique avec la classe politique congolaise.
L'UDPS pose des conditions.
Lesquelles?
L'UDPS avait fixé un délai pour la tenue de ce dialogue. Le délai a expiré. L'UDPS a demandé que ce dialogue se fasse sous une médiation internationale.
Bien, moi je pense, de même que l'UDPS a eu tort de fixer une date, de même, Joseph Kabila a eu tort de fixer aussi une date, parce que dans son ordonnance, il a fixé 10 jours. Et nous sommes aujourd'hui à un mois de là. On ne fixe pas de telles exigences. parce qu'on doit négocier, on doit trouver le compromis. Le dialogue, pour que ce soit une réussite, il faut que le maximum d'organisations politiques et sociales y participent pour trouver le compromis qui s'impose à tous. Si ce n'est pas le cas, alors c'est difficile. Alors, s'il faut négocier un jour ou deux jours de plus pour convaincre les uns et les autres de participer, alors il faut négocier. Mais si vous dites demain à 13h c'est fini, très bien. Et si à 13h ils ne savent pas être là, vous voyez dans quelles conditions se place. Donc je veux dire, nous devons dialoguer, c'est une nécessité absolue. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans quelques mois, nous arrivons à la fin des échéances. Et qu'est-ce que nous allons devenir s'il n'y a pas un compromis trouvé avant?
Alors l'UDPS compte sur cette décision de ne pas participer à ce dialogue, de ne pas aller à ce dialogue. Vous allez y aller seul?
D'abord, je n'ai pas répondu à la question de la facilitation internationale. Je pense que mais oui, ça peut être bien. Mais c'est à mes yeux, à moi, je parle en tant que même confronté, je parle en tant qu'individu, en tant que personnalité politique, ce n'est pas une exigence. Pourquoi? Parce que nous devons nous parler entre Congolais. Le compromis que nous allons trouver, c'est pour nous diriger, nous, pour nous organiser, nous, pour que nous puissions nous avancer. Ce n'est pas la communauté internationale. Elle peut nous aider éventuellement, mais c'est nous. Donc si nous pouvons nous parler, c'est beaucoup mieux. Il n'est pas indispensable que la communauté internationale soit là pour être arbitre.
Alors, répondant à ma question, l'UDPS est catégorique, pas de dialogue, vous allez y aller seul.
Je peux y aller en tant que personnalité, si je suis invité, il faut être invité.
En tant que personnalité politique, vous n'allez pas engager le parti?
En tant que personnalité, vous n'allez pas engager.
Comme vous avez pris part aux concertations nationales.
Oui, en tant que personnalité, vous vous engagez vous-même, vous
apportez. On a parlé de l'UDPS qui a pris part aux concertations nationales. C'était vous,
Non. Si on parle de moi, aux concertations nationales, que l'UDPS a participé, c'est un abus. Moi, je ne peux pas, je suis responsable. Si je pars, j'ai fait beaucoup d'émissions de télévision. Je dis que je suis en tant que personnalité politique parce que c'est une tribune pour faire entendre une voix de ceux qui ont...
Personnalité politique, membre cofondateur
ça nécessairement. Ça, c'est historique. Je suis membre cofondateur, c'est pas un grade qu'on m'a donné, qu'on m'a octroyé. Non, c'est un fait historique. Et que donc, simplement, cette référence veut dire que Corneille Moulumba, l'UDPS, n'est pas un aventurier, n'est pas un parvenu, n'est pas tombé du ciel. Il est de ceux qui sont à la base de ce parti, qui l'ont mis au monde, qui l'ont tenu par le bras pour le faire grandir et qui l'accompagnent. Donc nous avons le devoir de contribuer chaque fois qu'il est nécessaire, donner notre point de vue pour contribuer à orienter. Et j'invite toujours ceux qui sont amenés à diriger le DPS à quel niveau que ce soit, d'être conscients que, messieurs, dames, n'oubliez, perdez pas de vue que vous êtes là, la notoriété de l'UDPS est assise sur le sacrifice des autres. Il y en a qui ont payé en argent, avec dans leur sang, ils ont payé pour ça. Donc, de l'humilité et surtout avoir une vision nous serait le coup de passe d'unité qu'on peut gagner.
Vous êtes en bon terme avec les autres membres de l'UDPS, Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi lui-même?
Je parle avec tout le monde, j'ai pas de problème. Je suis pas quelqu'un de sectaire. Je parle avec tout le monde, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur mes idées, je les exprime.
Vous êtes quand même assez critique, par rapport à la gestion de l'UDPS.
Mais si la gestion n'est pas bonne, je ne dois pas applaudir. Tout le monde ne peut pas être des applaudisseurs de béni, oui. Chacun doit assumer ses responsabilités et moi, j'assume les miennes. Je considère que l'UDPS, après 35 ans de combat, devrait avoir une direction de construire des grandes personnalités, respectables et respectées. Et aujourd'hui, l'UDPS
devrait... Mais ceux qui sont là, ils ne sont pas... Ceux qui sont là, M. Corneille, moi, ils ne sont pas responsables, et ils n'ont pas une grande personnalité.
Non, je trouve que ceux qui sont là sont sans doute pleins de bonne volonté, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle. Et quand je dis ça, ce n'est pas un mal. C'est pour, compte tenu des enjeux qui sont devant nous, comment faire pour pouvoir relever les défis qui sont devant nous. Donc, je considère que les amis qui sont là, avec qui je suis en mon terme, ce n'est pas un problème personnel. Mais l'UDPS, aujourd'hui, apparaît comme un grand camion semi-remorque, plein de monde, surchargé, et au volant, vous avez, comme on dirait ici, des restes ou des beaux chauffeurs. Donc, l'UDPS doit être conduite compte tenu des enjeux, par des personnalités ayant l'expérience, comprenant
comme
les enjeux
vous,
du Congo. Les
gens du comme Congo. Vous
Oh, il y en a beaucoup d'autres dans le pays. Il y a beaucoup de gens d'autres dans le pays. Les hommes qui comprennent, les hommes et les femmes qui comprennent les enjeux du pays, de la région, de la sous-région et du monde. Donc, si vous n'avez pas tout ça, comment appréhender les problèmes qui se posent? C'est comme ça qu'aujourd'hui, on ne parle que des individus et on ne regarde pas les enjeux ni les visions.
Alors, vous avez déclaré en 2014 que votre chef est très malade, le parti doit se préparer en conséquence. Ça veut dire quoi?
Non, donc je vais simplement dire ceci. Vous savez, l'hostilité des fesses, ça veut dire catégorie de personnes. Vous avez ceux qui se disent tshisekedistes. Et vous avez ceux qui posent le problème en termes de partis politiques. Moi, je crois aux partis, je crois aux organisations et pas aux individus. Pourquoi? Parce que les individus sont des chairs et des sangs. Qu'à tout moment, ils peuvent disparaître. Si les individus sont confondus avec les organisations, c'est-à-dire que le jour où l'individu disparaît, l'organisation disparaît. Alors, ça veut dire que tout le combat que nous avons mené jusqu'à ce jour aura été inutile. L'UDPS n'est pas organisé comme devrait l'être. À partir de ce moment-là, vous savez, quand nous avons créé le parti, il y avait un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un troisième vice-président, il y avait cela. Il n'y a plus de vice-président. Aujourd'hui, dans l'esprit de tous, l'UDPS se confond avec Tshisekedi. Et le jour où Tshisekedi disparaît, on devient quoi? Et que donc, j'ai dit ça, c'est que nous commençons une nouvelle année et que nous avons le devoir de nous réorganiser, de nous restructurer pour affronter les enjeux qui sont devant nous.
Vous avez fait ces propositions au parti?
Je ne fais que le faire tous les jours.
On ne vous écoute pas?
Pas beaucoup, malheureusement.
Ben continuez, puisque vous vous dites vous vous battiez toujours.
Mais je n'ai pas abandonné, je continue nécessairement.
Mais pourquoi vous exposez les problèmes internes de l'UDPS dans les médias?
Dites-moi un peu comment les membres de l'UDPS qui sont à Ouvira ou bien à Lubumbashi ou je ne sais pas où peuvent nous entendre autrement. Je les appelle à prendre conscience, à savoir que chaque membre du parti est comme une brique dans une maison et qu'elle a son rôle à jouer.
Alors M. Moulumba, je vous ai suivi sur un média, vous dites que l'UDPS ne doit pas être un parti familial.
Oui.
Ça veut dire
l'UDPS n'est pas une dynastie où les fils de ceux qui disent peuvent être des princes héritiers. L'UDPS a été créé par des patriotes du nord au sud, d'est en ouest du pays. Et que les uns et les autres doivent s'assumer, doivent jouer leur rôle. L'UDPS est un secrétaire général. Alors à partir du moment où un membre du parti, quel qu'il soit, peut s'engager à gauche, à droite, engager le parti, sans que, alors que les membres des structures, sans que le secrétaire général ne soit informé ou qu'il n'ait donné le quitus, je pense que c'est dangereux pour notre lutte. Et c'est ça que je veux dire, c'est que les uns les autres...
Le secrétaire général, il est venu se plaindre chez vous pour vous dire qu'il y a des gens qui engagent le parti, sont passés par lui.
Madame, je suis membre cofondateur du parti, je suis de très près la vie de mon organisation. Et nous avons, et lorsque nous disons cela, c'est pas pour attaquer l'un ou l'autre, non. C'est pour attirer l'attention pour que nous puissions corriger. Nous commençons une nouvelle année 2016. Les uns et les autres doivent assumer leurs responsabilités. Et que donc, c'est ça qui peut nous permettre d'avancer. Sinon, on n'ira nulle part. Et aujourd'hui, si l'UDPS...
Vous proposez quoi?
L'idéal en ce moment, le moins qu'on puisse faire, c'est que peut-être le président, sinon le secrétaire général, s'il a le courage de le faire, de convoquer un conclave avec différents cadres du parti. Nous connaissons beaucoup de gens. Se réunir et réfléchir ensemble sur les enjeux du moment, sur l'organisation du parti, c'est ce qu'il faut faire. Si ce n'est pas le cas, alors nous allons tout droit dans l'abîme.
Alors, M. Cornet Moulumba, c'était un plaisir hein, de vous recevoir.
Le plaisir est surtout pour moi. Et je vous remercie parce que ça m'a permis de faire en sorte que les nôtres aux quatre coins du pays, même à l'extérieur, puissent nous suivre et entendre un autre son de cloche. Et qu'eux aussi fassent la même chose, qu'ils se battent pour que notre parti joue à pleinement son rôle.
Un dernier mot à tous ces auditeurs.
Un tout petit, juste un message d'espoir, un message de... L'UDPS est né dans le combat et continue à combattre. Il n'y a rien qui est facile. La liberté, la démocratie, le développement, les changements de condition de nos compatriotes, c'est le fruit de la lutte. Lorsque nous admirons les autres pays à l'extérieur, ils se sont battus. Battons-nous aussi pour changer quelque chose dans notre pays. On n'en a pas d'autre, on n'a que celui-ci. Et qu'on soit très conscient des menaces qui pèsent sur notre pays, à nos frontières, particulièrement à l'Est et ailleurs.
Voilà, comptez-moi, c'est fini pour aujourd'hui. Merci monsieur Corneille Moulumba, bon dimanche.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que je recevais Corneille Moulumba Moujangui, membre cofondateur de l'UDPS. Merci à Patrick Kiasongwa qui était à la prise de son, micro Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.